de Chiz, 94.3 FM.
Bon, on nous a demandé de faire une promo, Félix. As-tu préparé quelque chose?
Non, toi?
Pas vraiment, là.
Moi non plus, je sais pas vraiment quoi dire, là.
Tu pourrais commencer par dire que notre émission s'appelle De l'eau dans la cave, que c'est une émission qui veut profiter du talent de la scène de l'impro à Québec par le biais de chroniques, de sketchs puis de capsules informatiques.
Ok, ouais, bonne idée. Ça s'appelle De l'eau dans la cave et on veut profiter du talent de la scène de l'improvisation à Québec avec des chroniques, des sketchs et des capsules informatiques.
Bon, puis pour finir, tu pourras leur raconter la fois au chalet.
Ok, d'abord, l'année passée à mon chalet.
Non, ça serait mieux pas. De l'eau dans la cave, c'est ton rendez-vous décapant et hilarant tous les mercredis 22h à Chiz 94.3.
Les 13 présentent la pièce Félicité d'Olivier Chouanière dans une mise en scène de Michel Bertrand du 27 au 31 mars au Théâtre de Poche de l'Université Laval. Laissez Oracle et ses collègues de travail vous raconter les détails de la vie de Céline. Vous plongerez peu à peu dans l'univers d'une de ses fans. Le cauchemar est à venir. Prêt pour l'aventure? Réservez vos billets en vente au Café chez Paul.
De savoir encore cette semaine une autre émission de l'ALLIE, qui est l'Association des étudiants et étudiantes de deuxième et troisième cycle à l'Université Laval. Louis-Philippe Tremblay qui est là, puis qui vous anime cette émission pour la prochaine demi-heure sur les ondes de Chiz 94.3. Je suis en compagnie de Kevin Villeneuve-Tremblay, président de l'association.
Bonjour tout le monde.
Et de Jérôme Lisotte, qui est attaché à l'exécutif et toute autre tâche connexe.
Merci. Bonjour.
Aujourd'hui, émission spéciale budget. On a eu une grosse semaine de budget la semaine dernière. On va évidemment se tourner un petit peu plus du côté du budget provincial aujourd'hui. D'ailleurs, vous, les gars, vous avez vécu le budget de l'intérieur. Vous êtes allés au huis clos là, pour éplucher tous ces documents-là. Puis d'ailleurs, là, juste pour nous mettre en perspective un peu à quoi ressemblait ce budget-là. Juste la couverture des documents que vous avez ramenés, là, ça dit clairement qu'est-ce qu'il y a dessus. Je vous explique la photo. Vous l'avez peut-être déjà vu passer là, la semaine dernière dans les médias, mais c'est on voit en fait ce qu'on devine être un couple de personnes âgées qui sont avec leurs deux petits-enfants. Ce qu'on devine être leurs petits-enfants qui sont en bas âge là, entre 4 à 5 ans.
4 ans.
Ils ont sûrement 4 ans. C'est ça. Ça nous présente vraiment donc un budget vraiment qui est axé sur les personnes âgées. Vous l'avez vu rouler dans les médias, les personnes âgées, mais aussi les jeunes, les enfants et les familles, évidemment.
On voyait pas de jeunes universitaires là, sur la couverture. Puis dans le budget à l'intérieur des pages non plus, on voyait pas de jeunes universitaires.
Déjà avec la couverture au début dans le huis clos, là, vous avez dit ah ouais, ok, ouais. Là, on trouve pas grand chose.
Ça semble pas être le public cible.
Non, c'est ça. Lançons-nous tout de suite justement là, sur ce que vous avez en fait là, soulevé dans ce budget-là. Jérôme, peut-être on peut commencer pour le financement justement des universités. Qu'est-ce qu'on retrouvait ou ne retrouvait pas dans le budget justement?
Oui, exact. Donc le financement des universités, c'est un investissement de 114 millions sur 5 ans. Non, ça c'est au fédéral, excusez-moi, je suis un peu mêlé, moi là.
On va y revenir plus tard au fédéral.
C'est ça, là, j'avais trop hâte de parler du fédéral. Non, mais pour ce qui est du financement des universités, on retrouve une enveloppe de 15 millions par année, donc sur 5 ans. Donc, ça fait 5 millions par année pour les universités. Le grand gagnant de ce budget-là au niveau études supérieures, c'est surtout les cégeps. Donc, les cégeps ont une enveloppe quand même de substantielle de 114 millions sur 5 ans. Donc, pas grand-chose pour l'université de ce côté-là. Donc, on est quand même déçus par rapport à ça. Toutefois, il faut mentionner qu'il n'y a pas eu de baisse du financement par rapport au budget précédent. Donc, on conserve les acquis, mais on ne développe pas nécessairement de financement universitaire.
universitaire dans ce budget-là.
C'est sûr que on est déçu à ce niveau-là, mais c'est quand même notre devoir de mettre les choses en perspective. Puis moi, quelque chose que j'aime beaucoup du gouvernement en place, c'est l'ouverture à la discussion. Puis aussi, c'est le fait qu'ils ont pas peur de déplaire aux gens, puis ils nous le disent clairement. Puis ça apparaît dans nos rencontres avec M. Roberge aussi, quand on lui pose une question sur laquelle il n'est pas d'accord. C'est clair, on a la réponse, même si que ça nous fera pas plaisir. Mm-hmm. On a l'heure juste avec ce gouvernement-là. Puis le matin du budget, on a croisé justement M. Girard, qui est ministre des Finances. Donc c'est lui qui a fait le budget. Puis quand on s'est présenté, puis on a dit bonjour, on est l'allié Cycle supérieur de l'Université Laval. Il dit, bien, vous allez être déçus cette année, mm-hmm. parce que cette année, c'est le tour des cégeps. Puis, mm-hmm. Pour mettre les choses en perspective, puis, tu sais, il y avait raison de le dire aussi, mais c'est parce que dans l'esprit du gouvernement, c'était l'année dernière que c'était l'année des universités. Alors, il y a 173 millions d'accordés en plus, mm-hmm. donc on a eu une augmentation du budget des universités de 6,1% là, de mémoire. Mm-hmm. Donc c'est vrai que on a été quand même gâtés l'année dernière, sauf que on s'attendait peut-être avec les surplus budgétaires à avoir quelque chose d'un petit peu plus substantiel, parce que selon des estimations là, courantes, il y aurait un manque à gagner de 800 millions en enseignement supérieur globalement. Mm-hmm. Donc avec la 73 millions, on est très loin quand même de pallier au sous-financement du réseau universitaire qui date depuis 2012-2013, depuis les grandes coupes qui étaient accentuées aussi en 2015. Donc, on pensait que le gouvernement allait un petit peu se rattraper à ce niveau-là, parce que depuis 2012, ce qu'on remarque, c'est que malgré la bonification de l'enveloppe accordée aux universités, on ne rattrape pas ce que aurait été le budget des universités si on avait juste suivi l'inflation depuis 2012. Mm-hmm. Donc, nous, c'est ce qu'on espérait, au moins rattraper ce niveau-là, mais malheureusement, ce n'était pas le cas dans ce budget-là.
Exact. Ça amène aussi la question de... En ce moment, le gouvernement est en surplus budgétaire. Si on n'est pas capable de réinvestir pour revenir à ce niveau-là en surplus budgétaire, qu'est-ce que ça va être quand que ce surplus-là, mm-hmm. il sera plus là, ou qu'on ne pourrait pas en profiter? Donc, tu sais, ça amène plein de questionnements sur les priorités du gouvernement actuel en enseignement supérieur.
Oui, puis parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'investissements en éducation, mais ça s'est passé au niveau primaire, évidemment, là, avec justement cette promesse phare de la maternelle 4 ans aussi. Oui, là, c'est pis, donc l'assiette oui. éducation est comme entamée vraiment.
Puis c'est ça qui est important, parce que quand on regarde le budget du ministère de l'Éducation, qui est maintenant fusionné depuis l'arrivée du gouvernement, avant, c'était il y avait Mme David qui s'occupait de l'enseignement supérieur, mm-hmm. et M. Proulx qui s'occupait de tout ce qu'on appelle le ministère de l'Éducation, les deux ont été fusionnés. Puis quand on regarde l'enveloppe globale de qu'est-ce que ça donne avec le nouveau budget, c'est une augmentation quand même de 5%, je crois, de l'enveloppe totale. Exactement. Donc, par contre, ce 5%-là va un petit peu au cégep, mais beaucoup au niveau de la maternelle 4 ans. Là. Donc, mm-hmm. nous, on pense que bon, cet argent-là aurait peut-être pu être mieux dépensé. C'est ce qu'on pense, mais encore là, ça reste que globalement, l'éducation, c'est bon. Quand même.
Puis comme tu le dis, c'était pas des grosses surprises. Là. Je pense qu'on le savait vraiment là, que c'est ça qu'on aurait entre les mains avec ce budget provincial. Je vous rappelle, c'est ce dont on vous parle aujourd'hui dans la question de savoir. La recherche universitaire également, oui. donc qui était là. Comment ça se passait, Kevin, dans le budget?
Ben, tout à fait. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose qui est un point important de pourquoi nous, l'Allier, on va au huis clos du budget. C'est justement pour avoir le temps de décortiquer tout ce qui se fait au niveau de la recherche universitaire, parce que on a vu là, une panoplie de chroniqueurs qui ont donné leur opinion sur le budget, plusieurs nouvelles qui ont été faites à ce niveau-là, mais personne ne parlait des investissements qui ont été faits en recherche. Donc, mm-hmm. je pense que notre pertinence aussi dans ces instants-là, ça démontre vraiment au niveau de la réaction qu'on a sortie, puis du détail là, de qu'est-ce qui est investi au niveau de la recherche. En fait, ben, l'année dernière, ça, on a vu c'est un petit peu la même chose que pour l'enseignement universitaire. On a vu quand même une bonification des sommes pour les fonds de recherche du Québec, donc pour les bourses étudiantes là, qui avaient grimpé là, de 2 000 $ pour la maîtrise et 1 000 $ pour le doctorat. Donc, on se disait C'est peut-être positif pour la suite des choses aussi, avec les surplus budgétaires aussi. Par contre, il n'y a aucune bonification au niveau des FRQ. Ce qu'il faut pas quand même penser qu'il n'y avait aucun argent là, qui était pour la recherche. Par contre, le plus gros investissement en recherche, c'est des investissements qui sont très ciblés au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, on parle d'environ 80 millions sur 5 ans en intelligence artificielle. Nous, on pense que cet argent-là aurait plutôt dû être investi au sein des fonds de recherche du Québec pour bénéficier à l'ensemble des programmes et à l'ensemble des étudiants qui font de la recherche universitaire. Mais le gouvernement a décidé d'aller plus dans une logique marchande, je dirais, de l'éducation, parce qu'on sait que l'intelligence artificielle, c'est ce qui est en vogue, c'est ce qui crée de l'emploi. Mais je pense qu'il y aurait pu avoir de l'argent qui va en intelligence artificielle à partir des FRQ. Puis ça l'aurait démontré, disons, une plus grande ouverture de la part du gouvernement envers la recherche qui n'est pas seulement appliquée, mais la recherche fondamentale aussi, qui est aussi un aspect qu'on défend beaucoup à l'Allier. Par contre, il y a des choses qui sont très intéressantes au niveau de la recherche. Puis moi, il y a un point que j'ai vraiment apprécié, c'est l'accès aux données pour les chercheurs associés à des organismes publics. Ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Parce que le gouvernement a investi des sommes pour créer un guichet unique, en fait, qui va faire en sorte que quand les chercheurs vont avoir besoin de données qui appartiennent au gouvernement, on pense par exemple à la RAMQ ou aux différents ministères de la Santé, Sciences et tout, au lieu d'aller cogner à la porte des différents ministères, faire des longues procédures qui, parfois, bon, on sait que ces procédures-là peuvent allonger la durée des études. C'est quelque chose qu'on entend sur le terrain assez fréquemment. Donc, ça va beaucoup simplifier le processus. Donc, pour nous, ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant qu'on retrouve dans le budget.
Donc là, ça, dans le fond, c'est les demandes d'accès à l'information, dans le fond, qui seraient un peu éliminées, c'est tout ça un peu? Ou c'est surtout c'est des demandes plus du côté scientifique?
Oui, c'est ça. Mais c'est pas exactement des demandes d'accès à l'information là, pour obtenir ces données-là.
Il y a vraiment des ententes.
Puis il y a des processus et des formulaires qui sont en place pour ça. Sauf que au lieu d'aller de faire 8 formulaires, les gens vont avoir juste besoin d'en faire un. Puis on espère aussi que les délais d'attente là, vont être beaucoup diminués avec cette mesure-là.
Puis on a un investissement, je pense, directement à l'Université Laval aussi, au Cyrano, là, qui est le centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations. Aussi, on retrouvait ça dans le budget, c'est ça?
Oui, mais le Cyrano, en fait, c'est un centre de recherche qui est interuniversitaire, donc c'est partout au Québec. Ça. Mais on a quand même plusieurs chercheurs là, et membres de l'Allier aussi qui font partie du Cyrano. Donc, on espère qu'eux aussi accueillent aussi favorablement la nouvelle que nous à ce niveau-là. Si on parle de 6 millions de dollars qui sont non récurrents, en fait, c'est juste un investissement de 6 millions de dollars, mais ça peut quand même permettre, je pense, des belles avancées au niveau du Cyrano. Là.
Prochain sujet dans ce budget-là, le ministre Robert, justement, je pense que le lundi précédent budget avait vraiment mis la table en disant qu'il n'y aurait pas grand-chose pour les stagiaires dans le prochain budget. Il nous avait comme un peu averti et c'est ce qui s'est passé. Il n'y avait rien là-bas. Jérôme, excuse-moi. bon, on va le dire, là, c'est parce que Guillaume, notre VP externe devait être là, il n'est pas là. Donc, je me suis trompé. Jérôme, vas-y, parle-nous un peu de ça, les stages. Ben, c'est un absent, en fait, du budget.
Exact. Comme Louis-Philippe le mentionnait, on s'attendait pas à ce que ce soit là, étant donné que le ministre nous l'avait dit un peu à l'avance. Toutefois, c'est une demande du mouvement étudiant. Il y a une campagne qui est faite par le CUT, il y a une campagne qui est faite par la FEC et l'UEC, et il y a absolument rien dans le budget. Il y a aucune mention même des stages. Et là, il y a un petit bémol. Toutefois, ça, c'est la beauté un peu d'aller dans un huis clos. C'est qu'on a discuté avec des fonctionnaires, dont un sous-ministre à l'enseignement, et ce qu'il nous a dit, c'est l'argent est là, vous la trouverez pas dans le budget, il n'y a pas de ligne là-dessus, mais elle est là. Ah, OK.
Mystère. Les dessous du huis clos.
Et là, ouais, c'est ça. Et là, on n'est pas plus avancé parce qu'on ne voit pas plus l'argent, on ne sait pas c'est quoi la somme, mais on se fait dire qu'elle est là. Donc, ça ne nous satisfait pas vraiment, mais on s'est fait dire ça. Donc, mais ça reste le grand oublié, en effet, du budget parce que ça fait 3 ans que c'est une demande du mouvement étudiant. Même les bourses pour les internats aussi en psychologie, en ce moment, il y a un manque à combler. Les bourses doivent être tirées au sort. Et il y a un manque à combler là, et ce n'est pas non plus mentionné dans le budget. Donc,
des miettes en plus qui auraient pu être accordées aux internes en psychologie qui ne sont pas dans le budget, malheureusement.
Exact, exact. Donc, ouais. Il y a vraiment une grande déception de ce côté-là pour tout le mouvement étudiant.
Je pense d'ailleurs qu'on nous a dit que d'ici avril, fin avril, il y aurait des réponses.
Le chantier, ouais. Exactement. Ouais, c'est ça. Le chantier des stages, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement, en ce moment, est en train de documenter la situation. Parce que c'est sûr qu'il ne peut pas arriver avec un chiffre sorti de nulle part, puis dire on va le documenter après. Ça, c'est une réalité qu'on comprend effectivement. C'est assez compliqué recenser les données aux différentes universités. Parfois, les universités ne tiennent pas de données non plus sur les stages. Donc, c'est vraiment difficile. Donc, ce qu'on savait dire, c'est qu'on allait avoir des réponses à la fin avril. Par contre, nous, ce qu'on croit, c'est qu'il n'y a rien qui aurait empêché le gouvernement de prévoir déjà des sommes en amont pour le budget et de l'écrire clairement dans le budget, en fait, pour les stagiaires, ou même faire un petit peu ce qu'ils ont fait au dernier budget avec les stages 4 en enseignement, dire, bon, c'est pas exactement ce que le mouvement étudiant attend, mais on va commencer par rémunérer ou compenser tel type de stage. On pense spécialement, je pense que le plus urgent dans tout ça reste les sages-femmes à l'UQTR qui représentent vraiment une grande population étudiante qui sont pas rémunérées. Je pense que l'urgence est à ce niveau-là, sans rien enlever aux autres stages non rémunérés, mais je pense que ça aurait été quand même une belle mesure que le gouvernement aurait pu mettre en place pour dire on s'en occupe, exact. Inquiétez-vous pas, on va dans cette voie-là.
Ça aurait été un beau symbole en plus, puis justement les sages-femmes, là, dans tout ce qu'il y a autour de la famille. On le sait, là, le gouvernement Legault est autour de la famille, donc je pense que ça aurait été un beau symbole. Peut-être une occasion manquée là, pour le gouvernement à ce niveau-là.
Tout à fait. Bref, ça veut, même après le budget, ce que ça veut dire, c'est que à l'Allier et même les différents groupes étudiants vont devoir continuer les mobilisations. Ça, c'est quelque chose qui est assez clair. Vous allez nous voir dans la rue aux côtés de nos collègues du QO, de la FEC, de l'UEC aussi, continuer à tenter de mettre de la pression sur le gouvernement pour finalement faire rémunérer tous les stages. Là, ça, c'est clair que ça demande une priorité à l'ALLI.
Une avancée importante, donc quelque chose d'un peu positif aussi dans ce budget-là. On parle encore de famille. Pour les parents étudiants, on va en fait réduire le calcul des aides financières gouvernementales. Dans le fond, on va réduire ce qu'on considère, en fait, la considération des pensions alimentaires dans le calcul dans les programmes d'aide gouvernementaux. Là, on parle évidemment de l'AFE, mais aussi de tous les autres programmes.
Dont l'aide sociale.
Et, dont l'aide sociale, exactement. La situation, en fait, est un petit peu complexe. Là. C'est un peu des calculs, mais en fait, pour rendre ça au plus simple, c'est que la pension alimentaire était considérée dans les revenus du parent qui en profitait. Là. Ce qui faisait qu'on baissait après ça soit son aide financière aux études ou un autre programme d'aide sociale. La limite était à 1200. Donc, si on gagnait plus que 1200 en pension alimentaire par année, ce qui est souvent le cas, là, bien franchement, là, ce qui était au-dessus du 1200 était considéré comme un revenu. Là, ce seuil-là est augmenté à 4200. Donc, c'est vraiment... trois fois plus, là, presque trois fois plus. Non, c'est trois fois plus. Exactement. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant là, de voir ce pas-là. Là. Évidemment, ça serait peut-être plus intéressant de ne pas les considérer du tout parce que de considérer ça comme un revenu, c'est pas un... On travaille pas avec notre enfant pour qu'il nous rapporte un revenu. Là. C'est vraiment de le considérer autrement que c'est la contribution de l'autre parent pour cet enfant-là. Là.
Enfin, ça fait près de 20 ans, je pense que c'est une revendication de différents mouvements, dont nos collègues de la Pétule, aussi ici à l'Université Laval, qui étaient tout de même très sceptiques parce que je sais pas si on se souvient, avec il y a quelques mois, Christine Labrie, députée de Québec solidaire du comté de Sherbrooke, exactement, qui avait déposé un projet de loi à l'Assemblée nationale qui a été adopté à l'unanimité justement sur cette question-là. Par contre, c'est le 3e ou 4e projet de loi qui avait été déposé, adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Donc, malgré le projet de loi, il n'y a rien qui nous portait à croire que ça allait être réglé durant le budget. C'est pas réglé, mais ça reste quand même une avancée majeure là, pour les parents étudiants.
Pour aussi de l'optimisme là, du côté du réseau de transport structurant de la capitale, Kevin, qu'est-ce qu'on retrouvait dans le budget à ce chapitre?
Oui, c'est plutôt mitigé, en fait, parce que oui, le gouvernement du Québec réaffirme son engagement de 1,8 milliard dans le projet de transport structurant. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ils ne reviennent pas en arrière. Par contre, on n'a aucune spécificité, ni dans le budget fédéral, ni dans le budget provincial, sur comment va être financé le projet de la part du gouvernement fédéral. Donc, c'est un sujet qui est assez complexe. Là. Je vous invite à ouvrir n'importe quel journal de n'importe quel jour des deux dernières semaines. Vous allez pouvoir en entendre parler, évidemment, mais on est quand même déçus là, de ne pas voir... dans aucun des deux budgets, la façon dont tout ce projet-là va s'arrimer. Cependant, ce que je trouve tout de même intéressant dans le budget, puis ce qu'on n'a pas du tout entendu parler dans les nouvelles, c'est le fait que dans le budget, c'est écrit que le gouvernement du Québec s'engage à déposer un projet de loi afin de s'assurer que le réseau de transport structurant de la capitale se réalise. Mmh. Je comprends pas pourquoi personne a parlé de cette mesure-là. Je trouvais ça quand même intéressant. Ça nous confirme que le gouvernement du Québec est prêt à aller de l'avant avec ce projet-là. Et puis, j'imagine que dans ce projet de loi-là, il va y avoir peut-être une petite démarche au niveau du qu'est-ce qu'on va faire avec le gouvernement fédéral, avec leur part, comment qu'on va financer le projet de transport structurant. Mais pour nous, c'est sûr que c'est une priorité, là, surtout avec... la mise en place du LPU l'année prochaine, il faut que les deux projets soient faits ensemble, là, ça c'est clair. Au niveau du transport, ce qui nous a un petit peu plus déçus, c'est la vitesse grand V à laquelle est mis le troisième lien, donc 325 millions. 325 millions. Dans les études sur la faisabilité d'un lien routier à l'est entre Québec et Lévis pour un projet qui a été accepté par aucun scientifique. Donc pour nous, c'est assez étrange de voir ça. Puis ça nous questionne vraiment sur la volonté du gouvernement de vraiment lutter contre les changements climatiques. Je pense que ça va être un beau message envoyé de dire « Bon, on annule ce projet-là, s'il vous plaît, annulez-le. » Ça serait vraiment apprécié de notre part parce que la science est contre ce projet-là, tout simplement. Et investissons ces sommes-là plutôt en transport en commun. Puis ça me fait penser aussi à un article que j'ai lu en fin de semaine dans le Journal de Québec par Claude Villeneuve, qui est justement quelqu'un que j'aime beaucoup lire au sein de ce journal-là. C'est pas tout le monde qu'on aime lire dans le Journal de Québec, mais lui, je trouve que c'est un bon qui décortique un petit peu les enveloppes qui sont données au niveau du transport au Québec. Puisqu'on remarque, c'est avec le nouveau budget, les investissements en transport en commun dans l'enveloppe globale qui est dédiée au transport est passé de 31 à 27%. Alors que pour les routes, c'est passé de 69 à 73. Donc, on réduit les montants pour le transport en commun. Ben, il y a une augmentation, la proportion baisse, et on augmente la proportion pour financer les routes. Ce que je trouve très intéressant, je sais qu'on aime beaucoup se comparer à l'Ontario. L'Ontario de Doug Ford, qui est méchant, anti-environnementaliste, conservateur. Pourtant, quand on va voir du côté de l'Ontario, pour les investissements en transport, c'est 76% des investissements qui vont au transport collectif et 24% pour les projets routiers. Donc, on n'a pas le choix d'être un petit peu déçu là, du gouvernement Legault sur cette tangente-là vers la baisse des investissements en transport en commun.
Pour terminer rapidement, ce budget.
C'est pas deux heures cette émission-là.
Non? Non, c'est pas deux heures. Mais non, il nous reste encore du temps. C'est pour ça que je disais rapidement. Je sais pas pourquoi j'ai dit rapidement. C'est juste une mesure, en fait, qu'on dit qu'il va avoir une somme de 50 millions par année sur 5 ans qui sera allouée au ministère de la Justice pour financer, là, en fait, tout ce qui est en lien avec la loi 151 là, pour les violences à caractère sexuel. Oui, Jérôme, tu voulais s'ajouter quelque chose?
Oui, c'est qu'il y a un comité d'élus qui a été mis en place afin de recommander des moyens pour l'accompagnement des victimes à caractère sexuel et pour financer cette initiative-là. Donc, il y a eu un montant de 50 millions sur 5 ans qui a été déboursé, donc 10 millions par année au ministère de la Justice. Donc, on accueille ça positivement, puis on va suivre de près les recommandations de ce comité-là parce que c'est un enjeu important dans le milieu universitaire et pour les membres de l'Allier aussi.
Une autre mesure absente des médias, des dont vos valeureux guerriers et guerrières de l'Allier ont pu décortiquer le jeudi dernier.
Puis qui nous touche, évidemment. à l'université. Parlons un peu du fédéral, budget fédéral qui a été déposé, lui, mardi dernier, donc il y a une semaine exactement. Jérôme, qu'est-ce qu'on retrouvait là, qui nous touche un petit peu plus dans ce budget?
Oui, j'étais excité d'en parler tantôt, mais là, je vais finalement pouvoir en jaser. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que le gouvernement fédéral prévoit un investissement de 114 millions sur 5 ans dans les organismes subventionnaires fédéraux, donc dans les trois organismes subventionnaires. La demande du mouvement étudiant qui avait été fait, notamment en lien avec la campagne Juste Part pour la recherche étudiante initiée par l'UEC, c'était un montant de 55,9 dès 2019-2020. Et ce qu'on a reçu, c'est 114 millions sur 5 ans, donc 22,8 dès 2019-2020, ce qui est un peu moins que la moitié qu'est-ce qu'on demandait. On est content qu'il y ait un réinvestissement dans la recherche qui est fait, c'est sûr et certain. C'est toutefois pas à la hauteur de qu'est-ce qui a été demandé, qui, nous, la demande, c'était en fait de revenir au financement de 2011, donc avant les coupures du gouvernement Harper. Donc, on est satisfait, mais petit bémol, c'est pas suffisant.
Tout ce qui est intéressant de mentionner, c'est que ce 22,8 millions-là, ça en va directement dans les poches des étudiants.
Tout à fait.
Ça, c'est quelque chose qui est quand même intéressant parce que ça va aller directement dans les bourses étudiantes des organismes subventionnaires fédéraux. Parce que, Jérôme parlait justement des coupes qui ont été faites sous les conservateurs. L'année dernière, le gouvernement fédéral a réinvesti beaucoup en recherche auprès des OSF pour rattraper ce que ça aurait été si on avait juste suivi l'inflation. Par contre, cet argent-là n'est pas allé dans les bourses étudiantes. Donc, si on se compare avec 2011 ou 2012 sous le gouvernement conservateur, la proportion des budgets des ESF qui sont dédiés aux bourses étudiantes ont diminué, en fait, ce qui est assez problématique. Puis notre revendication, notre 55,9 millions, on ne l'a pas sorti dans un chapeau. C'était justement pour rattraper les mêmes proportions qu'on aurait eues si les budgets avaient suivi l'inflation depuis 2012. Donc, voilà pour expliquer un petit peu notre revendication.
Ben, ça fait le tour un peu de tous ces chiffres. On espère qu'on vous a pas trop étourdi avec ces chiffres-là. Vous pourrez nous réécouter en balado aussi, là, si vous voulez.
Prendre des pauses.
prendre des pauses, prendre des notes sur le site de Schism, mais on le partage également sur nos réseaux sociaux. D'ailleurs, cette semaine, il y aura le lancement de votre nouvelle édition d'Impact Campus, qui est maintenant une fois par mois. On vous invite à le lire. On a d'ailleurs un autre édito à l'intérieur qui se retrouve là à chaque édition. Aussi, ce qui s'en vient cette semaine, je vais faire un peu le tour de ce qui s'en vient dans les prochains jours et semaines là, pour l'Allier. Ben, demain, c'est très important, 5 à 7, qui est organisé au Fou Allier pour rencontrer les candidats aux différents postes du comité exécutif là, de l'année prochaine, ben, de l'année qui commencera donc en mai 2019-2020. Donc, c'est une nouvelle mesure qu'on a prise, hein, c'est selon nos nouveaux règlements généraux. De créer justement des espaces de rencontre là, pour que vous puissiez venir les rencontrer, questionner ces candidats-là pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire avec l'Allier dans la prochaine année. Soyez là, en plus au Fou Allier. Oui. C'est pas tant de vous demander que ça, de venir passer une petite gazette au Fou Allier.
Puis j'ajouterais aussi que durant l'après-midi, on va travailler avant d'aller prendre un verre aussi pour durant le Forum des associations. Donc tout est sur Facebook, puis ça va nous permettre d'élaborer le plan d'action pour l'an prochain à l'Allier. Donc, si vous avez des idées, des choses que vous désirez que l'Allier fasse l'an prochain, parlez-en à vos élus d'exécutif ou tout simplement venez nous voir puis arrangez-vous pour que ce soit dans le plan d'action l'an prochain.
Exact. Vous pouvez également nous écrire là, n'importe où là, sur les réseaux sociaux, quoi que ce soit. Aussi, ben, juste pour le 5 à 7 aussi, je veux rappeler qu'il y aura de la pizza. Donc, on vous invite à venir souper avec nous. Ben, ça a été demandé par le président. D'ailleurs, ces élections auront lieu lors du CA extraordinaire du 10 avril prochain. C'est en soirée, à partir de 19h qu'on invite les membres à venir. Donc, vous pouvez venir. Selon les règlements généraux de l'Allier, les membres ne votent pas directement, mais vous pouvez être là en tant qu'observateur, poser vos questions. Et c'est les membres du CA qui sont présents, qui vont voter. Là. Donc, en posant vos questions, vous pouvez trouver également.
Influencer.
Exactement. Influencer et donner, ou du moins là, qu'on connaisse un petit peu plus les candidats suite à ça. Et aussi, cette semaine, c'est la semaine de la diversité sexuelle et de genre à l'Université Laval. Vous avez peut-être vu dans l'atrium, il y a déjà des installations qui sont là. Il va y avoir 3 conférences ce midi, demain midi et jeudi midi sur différents enjeux là, de la diversité sexuelle et de genre. Et mercredi soir, il y a une soirée également un peu plus festive. Vous retrouverez tout ça sur la page Facebook de l'ADSGUL, donc l'Association de la diversité sexuelle et de genre de l'Université Laval. Vraiment, informez-vous. Là, il y a vraiment des belles conférences super intéressantes. Et la conférence de demain midi, si vous ne pouvez pas y être, nous, l'Allier, comme on est partenaire de l'événement, on va la partager en live Facebook. Donc, vous pourrez la voir sur notre page Facebook là, à partir de midi.
Sinon, Louis, samedi, pour ceux et celles qui aiment moins les activités sociales puis qui se concentrent plus sur les études, on a des activités pour
ça,
vous
c'est
aussi.
Clair.
Donc, samedi, on vous invite à venir rédiger avec nous dans une ambiance austère et qui permet... qui est optimale pour la concentration. Mais on est en groupe, fait qu'on a du fun quand même. Donc, si on rédigeait la... Je sais plus combien de édition, mais ça fait quand même une coupe qu'on organise, qui est toujours un bon succès.
Oui.
Donc, à la bibliothèque et au pavillon Kruger.
Au Kruger, il n'y a plus de place. Il en reste seulement à la bibliothèque. Si vous voulez vous inscrire, soit communiquer avec nous, mais vous l'avez dans votre infolettre de l'Allier là, que vous avez reçue. Évidemment, c'est destiné aux membres de l'Allier seulement.
Tout à fait. Je vais enfin pouvoir avancer mes études.
Oui, Kevin est toujours là.
J'ai pas le choix.
merci beaucoup, les gars.
Merci.
On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour une autre émission de Questions de savoir sur les ondes de Chiz. Bonne fin de journée.
Vous écoutez Chiz 94.3